Nuits attiques, livre premier, chapitre 15. Combien est importune et désagréable l'habitude de parler beaucoup et sans sujet. Juste reproche adressé aux bavards en plusieurs circonstances par les principaux écrivains de Rome et d'Athènes. Au sujet de ces parleurs frivoles et importuns qui, sans jamais s'arrêter à rien de solide, donnent un libre essor à l'intempérance de leur langage, on a dit avec raison que les paroles naissent sur leurs lèvres et qu'elles ne viennent pas de leur âme. Une langue ne doit joint s'agiter au hasard et sans règle, mais s'assujettir par un lien intime à la pensée et ne se mouvoir que pour lui obéir. Cependant, combien d'hommes ne voit-on point qui répondent un déluge de mots dénués de sens et avec une sécurité et une aisance telle qu'ils semblent le plus souvent ignorer eux-mêmes qu'ils parlent. Homère dit que les paroles d'Ulysse, héros si sage et si éloquent, sortaient de sa poitrine au lieu de dire qu'elles sortaient de sa bouche. Paroles qu'il faut moins rapporter au son de la voix et à l'accent d'Ulysse qu'à la profondeur de ses pensées. Le même poète a dit, avec beaucoup de raison, que les dents sont un rempart opposé à l'impétuosité de la langue, qu'ainsi l'irréflexion des paroles peut être non seulement arrêtée par l'attention et la vigilance de l'esprit, mais réprimée par la garde placée, pour ainsi dire, dans la bouche. Voici les paroles d'Homère. Mais lorsque sa voix retentissante sortait de sa poitrine, et « Ô ma fille, quelle parole s'est échappée du rempart de tes dents ?» Je crois bon de citer aussi un passage de Marcus Tullius, où cet orateur blâme avec autant de sévérité que de raison cette abondance frivole et stérile des paroles. Mais qu'il demeure bien entendu, dit-il, qu'il n'y a aucun éloge à donner à ceux qui, tout à fait étrangers à l'art de la parole, ne peuvent exposer ce qu'ils savent, ni à ceux qui, sans instruction aucune, parlent avec élégance et avec abondance de ce qu'ils ignorent complètement. S'il fallait choisir, je préférerais le savoir sans éloquence à un frivole bavardage. Et dans le premier livre de l'orateur de Cicéron, on trouve encore ces mots. Qu'y a-t-il de plus déraisonnable que des phrases brillantes et pompeuses qui frappent l'oreille d'un vain bruit et ne présentent à l'esprit ni pensée ni instruction? Mais l'ennemi le plus acharné de ce défaut est sans contredit Marcus Caton. Dans le discours intitulé « Si Célius s'est appelé tribun du peuple », il s'écrit « Jamais il ne se tait, celui qui est atteint de la maladie de parler ». Il ressemble à l'hydropique qui dort et boit sans cesse. Cet homme est tellement pressé, il eut besoin de parler, que si les gens qui l'invitent ne viennent pas, il louera son éditoire. Ces paroles frappent vos oreilles sans vous persuader. C'est un charlatan dont vous entendez les paroles, mais auquel vous vous garderez bien de vous adresser en cas de maladie. Dans le même discours, Caton reprochant à ce même Marcus Célius, tribun du peuple, la vénalité de ses paroles et de son silence, s'écrit « Avec un morceau de pain, on peut lui ouvrir ou lui fermer la bouche. » Ce n'est pas sans raison qu'Homère donne à Tersite les noms de parleurs sans mesure, de discoureurs impudents. Il compare aussi le bruit de ses discours diffus et ennuyeux au cri des jets babillards. Car c'est là, je pense, ce que signifie les mots Amétropoès et Coloa. Eupolis caractérise la même espèce d'homme dans ce vers remarquable, très habile à parler, incapable de ne rien dire. C'est ce qu'a voulu imiter notre Salluste lorsqu'il dit « plus parleur qu'éloquent ». Hésiode, le plus sage des poètes, dit que loin de prostituer la langue, il faut au contraire la cacher comme un trésor, que toute sa grâce, quand on la laisse libre, lui vient de la modestie, de la retenue et de la modération. Une langue capable de se contenir est un trésor parmi les hommes, Jamais elle ne plaît davantage que lorsqu'elle sait se modérer. Et Picard m'a dit aussi avec beaucoup de justesse, très peu propre à parler, mais incapable de se taire. Pensée qui a sans doute donné lieu à celle-ci. Ne pouvant parler, il ne pouvait cependant pas se taire. J'ai entendu Favorinus dire que ces vers de Ripide, une bouche sans frein, une folie sans borne, ont ordinairement une fin malheureuse, ne doivent pas seulement être appliqués à ceux qui tiennent des discours impies et sacrilèges, mais bien plus encore à ces parleurs sans mesure, dont la langue intempérante et sans frein s'agite sans cesse et répand un épouvantable torrent de paroles. Les Grecs ont pour désigner ces hommes le mot significatif de catalogloussoi, grand parleur. Un des amis de Valerius Probus m'a raconté que cet illustre grammairien, quelque temps avant sa mort, disait d'une manière nouvelle cette phrase de Salluste « Satis eloquentiae sapientiae parum » assez d'éloquence, peu de raison. Il assurait que Salluste avait écrit « Satis loquentiae » assez de faconde. Car, disait-il, ce dernier mot convenait bien mieux à Salluste, novateur en fait de style. D'ailleurs, le mot « eloquentia » semble ne pas convenir à l'idée renfermée dans les mots « parum sapientiae ». Enfin, cette déplorable manie de parler, ce flux de grands mots vides de sens, sont très bien dépeints dans ce vers du mordant Aristophane. « Homme grossier, parleur sans mesure, dont la langue est sans frein, la bouche sans porte, braillard insupportable, parleur lourd et emphatique. » Nos anciens écrivains n'ont pas moins énergiquement flétri ce défaut en donnant aux bavards les noms de locutelli, babillard, blatérones, criard, linguiacae, bavard.